Comme vous le savez, cette année, les États généraux de la poésie, pour leur conclusion, après 8 années d'une série de réflexions, nous concluons les États généraux cette année autour de l'édition du poème, qui a un rapport quand même tout à fait beaucoup plus direct avec le marché de la poésie. Et on s'était dit que pour cette dernière édition de réflexion autour de la poésie, c'était une conclusion tout à fait naturelle pour nous. Donc je vais laisser la parole à Didier Cahen qui va diriger cette rencontre et qui va vous présenter ses invités.
Alors je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi le modérateur s'appelait un températeur. Là, je crois qu'on a la réponse. Donc on va essayer de faire baisser. Voilà, la poésie va bien, de mieux en mieux. Les signes de cette embellie sont multiples. Le site Poésie Bao, que vous connaissez probablement, tenu à bout de bras par Florence Trocmé depuis 2004, désormais avec l'aide d'Anne Malaprade et d'Isabelle Baladinovald, recense 20 nouveaux livres de poésie en moyenne chaque semaine. Les ventes progressent à un rythme soutenu. Entre 2008 et 2025, on est passé d'1 million d'exemplaires vendus à plus d'1,5 million chaque année, probablement 3 fois plus de lecteurs. Et pour être précis, en 2024, 1566 nouveautés ont été publiées, à compte d'éditeurs évidemment, et 1 650 000 exemplaires ont été vendus. C'est un article du Monde de Nicole Vulzer de mars 2025. Par ailleurs, on connaît tous ces poètes qui cumulent désormais les ventes par milliers d'exemplaires et une présence relativement constante dans les médias. Arthur Théboul ou Clara Isée, pour prendre 2 exemples pas tout à fait au hasard. Et le succès grandissant du Printemps des Poètes ou de notre marché de la poésie semble confirmer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sans doute. Et pourtant, ce meilleur des mondes est de plus en plus un autre monde. Plus guère de poésie dans les médias audiovisuels, radio, télé, TV, s'il n'y en eut jamais à la télévision. Sans oublier l'impact bien difficile à apprécier et mesurer des réseaux sociaux. En fin de compte, la poésie semble échapper de plus en plus au mode de publication habituel. Comme le précise très justement Serge Linares, je vous renvoie au Journal du Marché à son éditorial, je cite, « Si la poésie contemporaine favorise aussi les mises en voix et en scène de la poésie, avec le concours des moyens théâtraux, électroacoustiques, audiovisuels, numériques, elle est cependant comptable d'un héritage qui a constitué l'imprimé en espace dominant d'expression pour le genre. Effectivement, quel que soit l'intérêt de bien des aventures qu'on a pris, me semble-t-il, qu'on a pris l'habitude de classer sous le terme incertain de poésie orale, la chaîne du livre me semble toujours incontournable. Il y aurait beaucoup à dire sur les difficultés de la distribution et de la diffusion, nous y reviendrons probablement aussi dans un instant, mais cette dernière édition des États généraux de la poésie a décidé de concentrer notre regard et notre écoute sur l'édition du poème. L'édition et pas édité, le nom, pas le verbe, soit, et surtout un choix fort, poème et non poésie. Poème et poésie, cela pourrait être le thème d'un post-scriptum d'une année de plus pour l'interminable État généraux de la poésie ou du poème. Donc, si j'entends bien la proposition des organisateurs, il s'agit moins de dresser un état des lieux que de s'intéresser à des aventures individuelles. Yves Boudier et Vincent Gimeneau sont d'ailleurs très clairs, je les cite. Ainsi, la parole est rendue aux éditeurs, aux acteurs de la création poétique, à celles et ceux qui, de la page blanche au livre publié, de l'écriture à la rencontre des publics, du texte à la performance, pensent, imaginent, travaillent à la continuité essentielle de la poésie sous de multiples formes et pratiques. Pour cette rencontre, la deuxième sur ce thème, Vincent et Yves, qu'il convient de saluer et remercier comme jamais, ont réuni des personnalités et des aventures très différentes avec un point commun. Ce sont des éditeurs de poésie « classiques » guillemets, qui publient des livres papier, qui sont indépendants qui ne sont pas intégrés dans de très ou trop grandes structures, Gallimard ou Flammarion par exemple, bien différents aussi de ces structures polyvalentes qui s'intéressent à une poésie finalement plus conventionnelle, comme l'iconoclaste, et pas non plus ces toutes jeunes collections qui tentent à leur tour de sortir des sentiers battus. Je pense à Poésie commune des éditions AMF. Je passe aux présentations. Jean-Yves Rezeau, vous avez été ici, vous avez créé les éditions Le Castor Astral, que vous avez animé pendant 50 ans. Vous travaillez désormais pour les éditions Segers, où vous dirigez la collection L'année poétique. Vous réalisez depuis plusieurs années une anthologie annuelle pour le Printemps des poètes. Ces volumes réunissent des textes inédits d'une centaine d'auteurs pour offrir un large panorama de la poésie francophone de notre époque. Vous êtes membre du jury du prix Apollinaire. Juste à côté, Catherine Tourné, vous avez créé en 2008 les éditions Lanskine. Vous y publiez avec exigence, passion et enthousiasme de la poésie plutôt performante, souvent expérimentale, guillemets de nouveau, en tout cas c'est le terme qu'on employait naguère, et plus généralement des textes littéraires français et étrangers. Je n'oublie pas, je sais que vous y tenez, vos deux collections de livres de poésie pour enfants. Enfin, vous animez avec Paul de Brosson une librairie. C'est plus qu'une librairie, c'est un lieu, l'Ours et la Vieille Rigue, qui organise presque quotidiennement des rencontres de poésie. C'est un lieu magique, l'Ours et la Vieille Rigue. C'est à côté de la mosquée de Paris, ça fait bien justement avec la poésie palestinienne, c'est bien. Si jamais vous n'êtes pas allé à l'Ours et la Vieille Rigue, allez-y, voilà. François Hesbourg, vous êtes poète, traducteur et éditeur, bien sûr. Vous avez repris en 2013 une maison historique, une, fondée en 1981 par Jean-Pierre Saint-Yves, qui publie depuis bien longtemps certains des poètes les plus marquants de notre génération. Trois noms simplement pour baliser le terrain, pardon pour les autres, Jean-Louis Giovannoni, Esther Tellerman ou James Sacré, tous les trois publiés dans votre collection Choix de poèmes, les petites anthologies de poche que vous avez lancées récemment. Voilà une bonne raison de les mettre en avant. Alors, le fantôme, c'est la chaise vide, qui va très certainement arriver sous peu. François Sèvretot, quand elle arrivera, on la présentera. Et si elle n'arrive pas, on ne la présente pas. Voilà. On va attaquer enfin le vif du sujet. Un premier tour de table. Avant de parler directement des problèmes d'édition, j'aurais voulu connaître votre avis, votre sentiment sur la situation actuelle, la publication de la poésie, dans un contexte très chargé. J'ai choisi comme ça quatre traits de manière très arbitraire pour un peu caractériser la situation actuelle. Un regain d'intérêt pour une poésie, souvent une poésie qu'on peut dire populaire par opposition à une poésie savante. Je sais que l'opposition est un peu artificielle. Deuxièmement, la concurrence de l'édition numérique. Troisièmement, la montée en puissance des réseaux sociaux. Et enfin, la menace de l'IA, qui brouille quand même les cartes, même si la création artificielle, c'est un truc qui n'existe pas, qui me paraît bidon et qui pour l'instant n'est pas une menace. Voilà donc vos réactions par rapport à l'évolution de la poésie en ce moment. On commence par Catherine, qui a l'air d'avoir très envie de répondre. Catherine Lanskine.
Beaucoup de questions. Oui, il y a un regain d'intérêt pour la pour une certaine poésie. Avec un désir de livrer peut-être de manière un peu brute ce que les gens éprouvent ou leur réaction vis-à-vis du monde. Alors, c'est aussi un courant intéressant. Voilà, c'est peut-être pas toujours ce que je préfère, parce que je pense que la poésie, c'est affaire de langue, et que c'est intéressant quand il y a un vrai travail sur la langue, ou sur le rythme, ou sur le format, l'esthétique du poème sur la page. Alors, pour ce qui est de l'IA, je n'ai pas du tout d'avis. Je ne m'en suis jamais servie. Je trouve que ça me semble encore Je ne vois pas l'intérêt de faire un poème sur à partir de l'IA, parce que du coup, qu'est-ce qu'on exprime? Est-ce qu'on s'exprime soi-même? Donc pour moi, ça, là, j'ai aucun. Et puis moi, je n'écris pas. Je suis vraiment une éditrice, donc c'est quelque chose qui n'est pas.
Oublions l'IA sans problème.
Voilà, parce que
non, c'est... je suis d'accord, on l'oublie.
Voilà, je ne sais absolument pas quoi dire. Et qu'étaient les autres?
Non, mais c'est un premier tour rapide. Jean-Yves Rousseau, vous avez publié aussi Arthur Teboul en particulier, que je citais tout à l'heure comme un des poètes qui actuellement a une large audience en tout cas. Donc vous êtes à cheval sur les deux, en fait, sur la poésie qu'on dira peut-être populaire, vous allez peut-être réfuter ce terme, et la poésie savante. Donc cet à cheval, comment se traduit-il?
Il y a toujours eu un conflit un peu entre si on reprend depuis les années 70, entre la poésie un peu lyrique et la poésie formaliste. Bon, ça c'est un peu, au fil du temps, ça s'est un peu atténué, parce qu'une bonne poésie, elle doit être à la fois lyrique et formaliste. Ouais. Donc aujourd'hui, bon, il y a encore des petits noyaux durs qui sont extrêmement formalistes, mais ils sont quand même très isolés aujourd'hui. Et la création est extrêmement variée dans la forme. C'est ce qui marque notre époque. Il y a l'éclosion d'une nouvelle génération d'auteurs. Ça, c'est très, très important, parce que là, vraiment, depuis 4-5 ans, c'est très net. C'est bien, parce qu'il y a 10-15 ans, on se disait, il n'y a pas beaucoup de nouveaux talents qui arrivent. Et aujourd'hui, c'est frappant, quoi. Entre 20 et 35 ans, c'est énorme, quoi, la production.
On y reviendra sûrement. François Hesbourg, qui ne publie pas ces gens-là, ces jeunes auteurs, à ma connaissance, qui publient des auteurs qui viennent parfois du formalisme, alors une réaction par rapport à tout ça?
On publie ces gens-là. Tous les ans, les éditions Une publient des premiers livres, des nouveaux livres, des gens qui n'ont jamais publié, des gens qui ont 20 ans, 25 ans. Je ne sais pas, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a... Tu as dit poésie populaire, je ne sais pas ce que c'est qu'une poésie populaire, dans le sens où si c'est un genre, c'est difficile d'établir un genre. Pour moi, une poésie populaire, c'est une poésie qui rencontre des lecteurs. Donc un livre qui se vend bien, on ne peut pas le savoir avant qu'il se vende. Donc je ne sais pas ce que c'est que la poésie populaire. Donc j'ai pas beaucoup de regard là-dessus. Moi, il me semble, Jean-Yves, quand même que... Moi qui suis la poésie depuis à peu près 2000, tu vois, je suis arrivé là-dedans au début des années 2000, il y avait déjà des jeunes poètes, il y avait déjà une jeune génération qui disait déjà qu'il y avait une nouveauté. Peut-être que les réseaux sociaux, la caisse de résonance fait qu'on a l'impression qu'il y a un raz-de-marée, mais en fait, il y a toujours eu, et même cette histoire de la poésie formaliste et de la poésie orale, c'est des choses qui étaient déjà très présentes avec Daniel Bigat, Franck Venaille, Chorus. Bon,
il y a toujours des périodes quand même où il y avait plus.
Une explosion au début des années 70.
Voilà.
Avec la génération de James Sacré, Daniel Bigat, Franck Venaille, etc.
Exactement. Ouais.
Mais après, il y a eu des périodes plus.
Plus creuses,
plus creuses.
Mais
il y a toujours des très bons jeunes poètes, heureusement.
Il y a des éditeurs comme Pleine Page qui font depuis, je ne sais pas, fait 25 ans qu'ils existent, 30 ans. Et ils ont toujours défendu une poésie performative, etc. Ça n'a jamais disparu. Je sais pas, les éditions
ont publié des premiers livres de jeunes poètes de 25 ans dans les années 80, 90, 2000.
Pour moi, il y a toujours eu, voilà, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas de nouveau départ, il y a une continuité des générations, comme à peu près dans tous les domaines artistiques.
Bon, ça permet d'aborder le cœur de notre rencontre, hein, donc les aventures individuelles, puisqu'après tout, vous êtes tous les trois, François, un peu plus jeune tout de même, peut-être que les autres, mais je dirais tous les trois de la même génération d'une certaine façon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure complètement folle, créer une maison d'édition, puisque Jean-Yves Rousseau, même si maintenant vous êtes dans une relativement grande maison, c'est guère au départ, vous êtes créateur du Castor Astral. Donc, qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce qui a pu vous donner envie, en précisant un peu votre aventure personnelle, votre histoire, de vous lancer dans cette aventure de l'édition de poésie?
Alors, quand j'étais... jeune, comme on dit.
Voilà.
J'étais étudiant en carrière du livre. Donc, je suis arrivé par hasard quand même dans l'édition. Et pendant nos études, on devait faire des stages. Et à
avec un ami, nous on s'est débrouillé pour obtenir des stages au Québec, donc c'était en 72 par là, et donc ça a été le choc de notre vie en fait, on est arrivé à une époque où la poésie était très très dominante, importante au Québec. Et je ne veux pas vous raconter tout ça, mais disons que dans l'avion du retour, c'est là qu'on a décidé de publier des livres de poésie. On ne s'est même pas dit on crée une maison d'édition, on s'est dit on publie des recueils de poésie. Et donc on les imprimait la nuit, on les diffusait comme on pouvait sur le campus, dans les librairies de quelques villes. Et puis quand nos études se sont terminées... moi, je devais monter à Paris pour travailler dans l'édition, et tandis que mon collègue, lui, voulait rester dans sa région. Donc, on s'est dit, on continue ou on continue pas. Et lui, il m'a dit, on continue. Donc, voilà. Donc, du coup, ça dure depuis 50 ans et on a publié 1400 titres. Mais on est resté toujours totalement indépendant.
Avec une direction quand même donnée au départ, ne serait-ce que le choix de Castor Astral. C'est pas rien, je veux dire. C'est pas une, hein, Castor Astral. Donc, au départ, qu'est-ce que ça signifie, ce choix?
Alors déjà, c'était une blague d'étudiant dans un avion entre Montréal et Paris. On a décidé de choisir chacun un mot, mais on pensait faire ça pendant nos études et après travailler sérieusement, quoi. Oui. Donc c'était un peu, pas une blague, mais c'était très décontracté. C'était juste après 68. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Et donc on a choisi un mot chacun, moi j'ai pris le castor pour le Québec vu que l'idée était venue du Québec et toute la symbolique du castor qui est très, très sympathique. Et Astral, alors ça c'est vraiment vraiment la blague étudiante là pour le coup là. Mais c'est surtout parce que les deux mots avaient une assonance très, très forte, hein, donc ils fonctionnaient très bien ensemble, quoi.
Et le premier Castor Astral, vous pouvez nous le rappeler? Pour donner une idée, là encore, de l'esprit de la maison. Oui,
Le premier recueil, c'était un recueil collectif. Hein. D'accord. C'était des jeunes auteurs.
Mais ça veut dire aussi que ça a du sens que ce soit un recueil collectif.
Nous, ce qui nous intéressait, c'était la poésie très contemporaine. Hein. Ouais. Donc, c'était des gens plus ou moins de notre âge, et c'est ça qu'on voulait faire au début. Bon, évidemment, après, on a publié des auteurs de tous les âges, évidemment.
Catherine Tournay-Lanskin, évidemment... On sent les origines tout à fait russes, donc vous êtes russe blanche, vous avez été exploratrice, et contre le castor astral, vous avez décidé de prendre un nom slave.
Non, pas du tout.
Non, rectifiez si je me trompe.
Oui, hein. Totalement. Moi, je suis d'abord archéologue plutôt, et donc moi, j'ai travaillé longtemps dans les musées, sur les sites d'archéologie, et un jour, j'ai voulu... créer une maison d'édition parce que j'aime lire, c'est principalement. J'ai choisi le nom de Lanskin, c'est en hommage à quelqu'un que j'ai rencontré alors que j'étais étudiante, qui était monsieur Boris Lanskin, qui avait une petite librairie dans Paris et qui avait cette manie d'avoir très peu de livres en vitrine. Et quand vous rentriez, ce monsieur se levait, passait derrière vous, fermait la porte derrière vous. Donc moi, je devais avoir 18 ans. J'étais très angoissée. Il m'a proposé du thé ou un café. Et on a commencé à discuter. Et au bout de 2 heures, il m'a dit, revenez dans 15 jours, j'aurai un livre pour vous. Et je ne savais pas quel était le livre. Je ne savais rien. Donc, et je suis revenue. Et c'est quelque chose qui a duré comme ça pendant 2 ans. Parfois, j'arrivais, la porte était fermée, c'est que je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ça faisait un peu psychanalyse, mais c'était extraordinaire parce que du coup, c'était un rapport... d'abord, on ne savait pas ce qu'on allait recevoir, ce qu'on allait acheter. Donc c'était vraiment, pendant 15 jours, on pensait à ce qui allait vous arriver. Et puis aussi ça fait que j'ai découvert énormément de textes que je n'aurais jamais lus, et c'est peut-être ce qui correspond aussi à ma maison d'édition, c'est-à-dire moi je publie beaucoup de choses très diverses, et je pense que ça vient de là aussi. C'était, il y avait des choses que je n'aurais jamais lues ou que je n'aurais jamais même ouvert, et qu'il m'a mis dans les mains, Et en fait, cette histoire s'est finie assez tristement parce que j'avais à peine 21 ans et ce monsieur un jour m'a dit bah, écoutez, je vous donne ma librairie et il y a un appartement au-dessus, je vous le donne. Et ça a été la panique complète. Et je suis partie et je ne suis jamais retournée le voir parce que j'étais trop jeune, parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire de ça. Et je suis revenue peut-être 2 ans plus tard et la librairie était en train d'être vidée. Et j'ai toujours gardé ce souvenir de que j'avais manqué quelque chose, que j'avais été pas traître, mais j'avais laissé tomber quelqu'un, quoi. Et quand j'ai dû faire cette maison d'édition, j'ai choisi ce nom.
Et l'édition, donc, pour remplir la librairie qui était vide.
Oui, peut-être. Ou aussi parce que j'avais envie de publier des livres. Et je pense que c'était sa manière de proposer, de découvrir. En fait, quand on est éditeur, on reçoit des manuscrits maintenant par Internet, mais avant sous enveloppe. Et il y a quand même une grande jubilation, parce que je publie aussi énormément de premiers livres. Vous trouvez un texte et d'un seul coup, ça vous parle. Ça peut être très différent. Ça peut être des choses qui correspondent à ce que vous attendiez, mais ça peut être aussi des choses qui étaient tout à fait surprenantes, qui n'étaient pas du tout envisagées. Et c'est un grand bonheur. Donc voilà, c'est le plaisir de l'édition, c'est ça. Et c'était un peu ce que faisait ce monsieur, c'est-à-dire... J'étais comme une enfant quand je revenais au bout de 15 jours. J'allais avoir un livre. Voilà. Et j'ai toujours aimé les livres qu'il m'a passés.
Alors, Françoise Bourg, c'est une aventure un petit peu différente puisque vous avez repris une maison d'édition fondée par Jean-Pierre Saint-Yves, dont il faut évidemment saluer la mémoire et le travail. C'est quelqu'un qui a fait œuvre pour la poésie de manière tout à fait remarquable. Et malgré tout, c'est un geste fort et pas simple que de reprendre une maison d'édition qui avait déjà une identité très forte. C'était une maison qui était déjà au cœur d'une modernité poétique. Et puis, peut-être à la différence de Catherine Lanskine et de Jean-Yves Rezeau, j'ai l'impression que vous publiez plus spécifiquement, alors là j'y vais vraiment, vraiment avec prudence, que de la poésie. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'y allais avec prudence. Bon, non, répondez à la question et puis ensuite on reviendra sur les points d'interrogation.
Non, je suis d'accord pour rendre un immense hommage à Jean-Pierre Saint-Yves, qui a créé cette maison en 1981 de façon très singulière, très artisanale, comme au fond beaucoup de maisons, hein, Jean-Yves, se sont montées à la fin des années 70, début des années 80. Il y a eu vraiment un grand mouvement en France où les éditeurs, l'édition s'est décentralisée. Elle a quitté Paris et il y a eu énormément, il y a eu les éditions Chêne, il y a eu Fata Morgana, il y a eu énormément partout en France de maisons d'édition. Une est un de ces enfants-là, un des enfants des années 80. Et tu dis la modernité pour les éditions. Moi, je retiens souvent le S de une qui est au pluriel. Et déjà à l'époque, on pouvait voir certes Jean-Louis Giovannoni, mais il y avait aussi Daniel Fano, le poète belge, qui est un poète... entre le burlesque, la bande dessinée et Paris Match.
Un poète formidable qui devrait être plus connu.
Mais bien sûr, c'est un des plus grands poètes qui soit. Et on pouvait trouver Roberto Ruajos, mais aussi Vicente Huidobro, qui était le sale gosse de la poésie chilienne. On pouvait voir Roger Giroux, qui n'était pas spécialement une poésie drôlatique, mais extraordinairement puissante. Et à côté, on avait Pierre Tillman. Donc voilà, même si une avait une image qui me convient très bien, parce que c'est une image très ouverte. C'est une image qui abritait comme ça tout un tas d'univers et qui, à mon avis, forme ce que j'aime bien considérer comme un écosystème. Et en tant qu'éditeur, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de nourrir cet écosystème. C'est qu'en gros, toutes les voix cohabitent, les générations cohabitent, les directions poétiques cohabitent. Et ça fait un ensemble qu'on appelle une, mais c'est une accumulation de singularités.
C'est une au pluriel, avec aussi une différence par rapport à Jean-Yves et à Catherine. Vous êtes installé en province, dans le sud de la France, et donc, bon, c'est quand même aussi quelque chose d'un peu singulier que d'échapper au centralisme parisien, et probablement une forme, peut-être même davantage, non, d'être un peu en dehors de ces... réseau. Oui, Jean-Yves, vous...
Nous, on était éditeurs d'Aquitaine. Hein. On était aussi... Ouais.
Oui.
De Pays de la Loire, moi, j'ai créé la maison.
C'est vrai, vous êtes, tous des provinciaux. Ouais, non, il y a des provinciaux parisiens et un parisien provincial. Enfin, voilà, hein, c'est pas tout à fait pareil. Oui.
Je ne sais pas si c'est un avantage ou un privilège. Le privilège, c'est de vivre au bord de la Méditerranée, ça c'est sûr. Pour l'édition, j'aime à croire que le lieu où on travaille n'a pas d'importance. En fait, on travaille avec une diffusion. Les livres sont diffusés en France et dans la francophonie, dans le monde entier. Ils sont dans des librairies tout autant parisiennes que du nord de la France, que de l'Est, que du Maghreb. Au fond, je ne suis pas sûr que le lieu, en tout cas pour moi, donne une identité. Jean-Pierre Saint-Yves a fondé la maison dans le Var. Aujourd'hui, elle est dans les Alpes-Maritimes. Lui était né dans le nord de la France. Moi, à Paris, j'ai grandi en Touraine. Enfin, tout ça, voilà. Et on passe notre vie à Paris parce que c'est là aussi où se font beaucoup de rencontres. Donc, on n'échappe pas complètement à Paris.
Alors, la vignette, le côté complètement arbitraire de cette rencontre, hein, je vous ai demandé de préparer une toute petite lecture pour faire entendre quand même quelques lignes, quelques mots de ce que vous publiez. C'est, je l'avoue, un exercice terriblement arbitraire parce que quand on publie des dizaines de livres par an, lire pendant une minute un extrait, c'est terrible. Mais vous avez accepté de vous livrer à ce petit exercice, donc on y va. Jean-Yves, Catherine, vous commencez ? Non, alors c'est Jean-Yves. Alors c'est Jean-Yves, pas de problème. Voilà. Et puis vous pouvez montrer les livres parce que c'est aussi, ça a du sens aussi de montrer la maquette. On va parler évidemment des problèmes matériels. Alors,
voilà, hein. Le livre, c'est une anthologie donc, qui est publiée par les éditions Seguer, c'est qui paraît une fois par an, vu son titre, hein, L'année poétique. Ce sont que des poèmes inédits, enfin 95% des textes sont inédits. C'est un livre qui fait le bilan d'une année poétique, qui publie, il faut que tous les textes soient écrits en langue française et qu'ils soient inédits donc, et qui toutes les générations doivent être présentes et les poèmes doivent venir de la France, de la francophonie, mais aussi de n'importe où dans le monde tant que les auteurs écrivent, ont choisi d'écrire en français. Voilà. Donc difficile de choisir un ou deux auteurs, mais enfin bon. C'est presque au pif. Donc, il y en a un qui fait 7 vers. Donc ça c'est, parce qu'il y a eu beaucoup de lectures. Ça va aller. Merci. Donc c'est un poème de 8 vers en fait. Hein, et bon, il y a eu énormément de lectures. On a fait une quinzaine de lectures à Genève, à Montpellier, à Paris, à Nantes, à Montréal, un peu partout. Et ce poème de 8 vers a toujours connu un grand, enfin pas un grand succès, mais enfin il a marqué, on l'a toujours noté. Et c'est un poème d'une jeune poétesse qui s'appelle Pauline Picot. Et c'est assez rare de dire autant de choses en 8 vers. Je viens vous annoncer qu'il reste 7 poissons dans la mer, 19 € pour la fin du mois, 103 maisons en feu dans le paysage, mais qu'il reste également 8000 combinaisons de nos corps. Les possibilités sont donc encore relativement ouvertes. Un peu d'humour, mais noir.
Merci. Le nom de l'auteur, donc ?
Elle s'appelle Pauline Picot.
Pauline Picot. Catherine ?
En fait, Claude Favre devait être là et malheureusement, pour beaucoup de raisons, elle n'a pas pu être présente. Donc je me suis dit que ça serait quand même une manière de qu'on l'entende quand même et qu'on entende sa voix singulière. Donc je vais vous lire un tout petit texte de « Ceux qui vont par les étranges terres, les étranges aventures qu'errant », qui est un livre... qui m'a beaucoup accompagnée et je pense qu'il a été très important pour beaucoup de gens. Donc, alors je ne vais pas tout lire parce que c'est des petits paragraphes assez longs, mais je vais juste aller vous lire 4 lignes. Te souviens-tu de ce silence, du silence des noms oubliés, tous les noms entendus dans ta vie, oubliés, le nom de ceux qui... Par les étranges terres, les étranges détours vont, loin de ceux qui ne veulent rien, qu'ils ne connaissent déjà, et veulent posséder, sans fin possédée. Le conte étrangle la quête par d'étranges détours qu'errant le rêve imprévisible, cartographie tronquée des rêves, des récits entêtés de l'absence, dans le vent obstiné, sans peur de l'absence, qui vont.
Merci. François.
Je vais vous lire un peu plus que quatre lignes, j'en suis désolé. Une poétesse américaine, Solmaz Sharif. C'est son deuxième livre, Douane. Je me suis dit que, puisque c'était un thème, les douanes, qui nous a beaucoup occupés depuis quelques mois, c'était de circonstance. Solmaz est américaine. Elle est née en Turquie, de parents iraniens qui fuyaient l'Iran. C'est à mon avis la plus grande poétesse américaine aujourd'hui. Et sur toutes ces querelles entre le formalisme, le lyrisme, etc., elle, je trouve qu'elle réunit absolument les deux, ce qui veut bien dire que quand il y a une voix, comme tu le disais, ça supplante toutes les questions de forme. C'est un très long poème de 3 pages, je vais le réduire par 3, rassurez-vous. Non, c'est bon. Et faire un signe depuis le porche, et abandonner la rancune, et se déshabiller, et appeler ton père, et lui dire... J'avais oublié à quel point les gens peuvent être sympas dans ces États républicains, et l'entendre dire « oui, tant que tu n'emménages pas à côté », et se souvenir de tous les rideaux tirés dans les appartements où tu as vécu, et sortir brièvement avec un banquier, un marxiste sur le retour, et l'entendre parler au téléphone en milliards de dollars, le dépôt sur le globe clair de ses yeux, alors qu'il se tourne pour contempler ta nudité, et fantasmer de publier un poème dans le New Yorker, éviscérant ses petits besoins, et se déshabiller quand l'agent te le demande, et trouver un point à fixer sur n'importe quel mur, et développer la capacité de quitter une nation tout entière ainsi, juste en fixant un point sur le mur. Et se souvenir du colon qui, derrière son téléphone portable, a dit « C'est pour Dieu que je te filme », et se souvenir de ce Dieu triste, Dieu de la caméra du téléphone portable, Dieu de ce petit globe noir, œil pixelisé, au-dessus de la table de blackjack au Haraz, tout autant que de la fosse métallique dentée au checkpoint de Calandia, et se souvenir du Texan qui a pointé un fusil de chasse contre la poitrine de ton père, l'envoyant valser en arrière, suppliant, et les mots lui sont venus en persan, et être jalouse de ça, sa langue désespérée, et se lamenter de tes lamentations en anglais, l'anglais étant ta première défaite, et admettre enfin, à haute voix, je veux rentrer chez moi, et se tenir devant la maison de ta grand-mère, et marcher d'un cimetière à l'autre dans ces états, et pas une tombe sur laquelle lire Solmaz, et savoir qu'aucune nation ne sera chez soi jusqu'à ce que l'une ne le devienne, et faire ceci afin de faire l'autre chose, la chose dingue, bien que tu aies oublié ce que c'était. Je précise que c'est traduit par Raluca Maria Anea.
Merci. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi de la manière dont, à l'heure actuelle, vous avez tous quelques années d'expérience derrière vous, la façon dont vous concevez très concrètement, je dirais au quotidien, votre métier d'éditeur à l'heure actuelle, quelles sont vos attentes, mais aussi par rapport à d'autres activités, à vos autres activités, quelle est la part que prend le métier. Alors quand je dis d'autres activités, François Hesbourg, vous le savez, est aussi écrivain. Et c'est une question d'ailleurs que j'insère dans la grande question. Vous avez une maison d'édition qui fait partie de l'édition, je dirais, indépendante et de création, et vous avez publié dans une maison, Gallimard, qui donc est la maison que chacun connaît. Je referme la parenthèse. Donc, au-delà de ce travail d'éditeur, vous avez aussi, je le disais, Catherine, tourné la responsabilité d'un lieu de vie, d'un lieu de poésie, avec un café, avec un restaurant, avec des lectures, un tas de choses. Jean-Yves, c'est un peu différent, mais vous avez aussi une responsabilité de gestionnaire, d'une certaine façon. Alors, le cœur ou le noyau du métier d'éditeur de poésie, j'ai tort de ne pas rajouter à chaque fois éditeur de poésie, en 2025. Hein. Jean-Yves ?
Le cœur, enfin, de toute façon, pour tout éditeur, le cœur, c'est la diffusion. Parce qu'on peut faire les meilleurs livres du monde, si on n'a pas un bon diffuseur, il ne se passe pas grand-chose. Donc je pense que la première préoccupation d'un éditeur, c'est de trouver un éditeur qui correspond à son travail, au volume de livres qu'il publie, s'il veut trouver un minimum de lecteurs. Quoi. Donc pour moi, c'est la base quand même, ça. Après, le travail, aujourd'hui, évidemment... c'est très différent éditeur aujourd'hui qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de... Il y avait des films, des plaques, enfin, on faisait les maquettes de couverture au Letracet, donc je suis sûr que la plupart des gens ici savent pas ce que c'est que le Letracet, hein. Je peux pas leur en vouloir. Donc voilà, il y a la fabrication aussi, mais aujourd'hui la fabrication est devenue très standardisée, donc il y a très, très peu d'éditeurs quand même qui font des très beaux livres. Hein. Donc, oui. Avec les éditions M qui font des très beaux livres, lorsqu'il aussi.
Et ce côté standardisé, justement.
Vous bah oui, c'est très standardisé. Donc oui.
Mais ça a un impact sur l'écriture même des poètes aussi, vous pensez ou pas?
Pas l'écriture, parce que bon, un poète, il ne sait pas forcément chez qui il va éditer son prochain livre. Donc
oui,
il,
oui,
non,
bon.
Je ne pense pas que ça a d'impact sur l'écriture. Je ne pense pas. La fabrication, c'est important aussi, hein, parce que ça... Ça peut déterminer un petit peu le choix des textes qu'on publie aussi.
Et vous qui êtes dans une maison qui est quand même une maison d'une certaine taille, quelle est votre liberté de décision justement sur la maquette, sur la qualité du papier, sur ces choses-là? C'est important de le savoir aussi. Donc.
Pendant 50 ans, je décidais seul de tout,
voilà.
Pratiquement. Maintenant, c'est très différent. Je dois dire que je suis quand même très, très content de travailler pour les éditions Segers parce qu'elles me laissent vraiment beaucoup de liberté. Alors bon, je ne veux pas dévoiler des choses particulières, mais bon, quand on travaille pour une grande maison, là où on est le moins libre, c'est les couvertures. Donc effectivement, là c'est plus dur, le choix du titre du livre devient compliqué et le choix de l'image peut être très compliqué. Mais en dehors de ça... en ce qui me concerne, moi, j'ai 100% de liberté sur le contenu du livre, et c'est quand même pour moi l'essentiel, quoi.
On va changer l'ordre un peu, François. Le cœur du métier, donc, quel rapport aussi à votre activité d'écrivain?
Le cœur du métier, il est double, parce qu'on est des éditeurs à la fois d'un objet immatériel, qui est le texte, et d'un objet matériel, qui est le livre. Et donc, on a deux cœurs, une maison d'édition a deux cœurs toujours, et comment on concilie les deux? Cet agencement-là est quand même ce qu'il y a de plus intéressant pour moi dans le métier. J'ajoute que être éditeur de poésie est quand même une totale incongruité, ça n'a presque pas de sens.
Absolument.
Ça ne devrait peut-être même pas exister. C'est absolument possible en France, en tout cas. On a cette chance-là inouïe quand même de faire des livres qui défient totalement les logiques, la logique du marché. C'est presque absurde quand on y pense. C'est presque un caprice et moi je suis heureux tous les matins de me lever en me disant que j'ai cette liberté-là dans la vie de passer ma journée à travailler sur des textes que j'aime profondément, sans aucun souci d'ordre commercial. Et ensuite, bah, comme tu le disais, on a tout l'aspect industriel qui vient,
voilà.
La diffusion, la promotion, etc. L'obsession pour moi de faire un catalogue, je suis très attaché, on dit une maison d'édition, j'aime beaucoup le mot de maison, il est très rare qu'on publie un auteur comme ça, en coup de vent. Je suis attaché aux histoires, j'aime pas les orphelins. Quand un auteur rentre, souvent il rentre pour de bon chez une. Je dis toujours aussi, tu parlais des jeunes poètes, qu'un auteur qui n'a jamais rien publié a beaucoup plus de chances de rentrer chez une qu'un auteur qui a déjà publié 20 livres, parce que quelqu'un qui a publié 20 livres ailleurs, le désir a été partagé. Le sens profond du métier d'éditer, c'est d'ouvrir un manuscrit le matin et tomber sur quelque chose qu'on connaissait pas.
Imprévisible.
Sur l'aspect des livres, la standardisation, bah moi je peste dessus. Alors j'ai tout entendu que ça coûtait moins cher d'aller à l'autre bout de l'Europe, que ça coûtait moins cher de prendre des mauvais papiers, que ça coûtait moins cher d'arrêter de coudre les livres. Déjà dans les années 90, Jean-Pierre Saint-Yves disait si c'est pour faire des... S'il n'y a plus de différence entre un livre et une larve, autant arrêter de faire ce métier, je suis d'accord. Si je devais arrêter de faire les livres que j'aime en tant comme objet et comme texte, je prendrais d'autres métiers beaucoup plus faciles, beaucoup plus rémunérateurs. Donc non, la condition sine qua non de ce métier, c'est au moins de faire les livres qu'on aime. Et j'ai toujours eu le sentiment que faire le plus bel objet possible, au coût le plus abordable possible, c'était en tant qu'éditeur une façon de montrer à l'auteur et au lecteur à quel point j'essayais moi, en tant qu'éditeur, de me mettre au diapason du texte que je publie. C'est-à-dire, je ne supporterais pas de publier un livre sur un mauvais papier en numérique. Enfin, ça, j'aurais l'impression de rompre un contrat avec le texte que je veux défendre.
Catherine Tourné, donc la même question, avec peut-être aussi un aspect auquel vous êtes forcément confronté justement parce que vous avez ce lieu, et il y a quand même tout l'aspect économique qui est derrière, et on sait qu'éditer de la poésie, c'est pas forcément facile, on sait que c'est menacé en permanence, on sait que ça dépend beaucoup aussi des subventions, des aides, et on sait beaucoup de choses en ce moment, que tout ça n'est pas forcément compatible avec ce qu'on entend des contraintes budgétaires. Comment ça se passe de votre point de vue, justement? Le CNL, heureusement, est là, mais au-delà du CNL, ou pas au-delà d'ailleurs, on peut en dire un mot.
Bah, le CNL, c'est une chance. Je crois qu'on est les seuls en Europe. C'est une chance qui me semble de plus en plus fragile parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. La région, j'étais dans une région qui a arrêté complètement, qui était les Pays de la Loire, qui a arrêté les subventions. Mais comme j'avais jamais vraiment demandé les subventions, ça m'a pas fait beaucoup d'effet. Parce que, en fait, la course aux subventions, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, pompant. Il faut savoir faire. Et je ne suis malheureusement pas une championne de ce genre de choses. Comme mes voisins et comme mes... Voilà, je suis aussi sensible. Pour moi, il faut que le papier soit beau, la couverture soit belle, que le livre soit cousu, que... Voilà. C'est aussi le plaisir pour l'éditeur d'ouvrir un livre, parce qu'on passe notre vie à les ouvrir, à les porter, à les ranger, Alors même si moi j'ai un diffuseur, un distributeur, je vais souvent voir les libraires quand même. Donc il faut savoir parler des livres, il faut savoir. Ils nous habitent et ils sont tout le temps présents. Pour moi, il est extrêmement important, et j'avais fait ça à une époque, mais là maintenant, en ce moment, j'ai plus le temps. J'aimais faire des paires entre quand je sortais un livre nouveau, essayer de le mettre en regard avec un livre que j'avais publié il y a 6, 8 ou 10 ans, ça n'avait pas d'importance. Parce que rien, il y a une chose qui est magnifique en poésie, c'est que le premier livre que j'ai publié, je le porte encore, et je pense que tant que je republie quand le livre est épuisé. Donc les livres ne sont pas comme... ce ne sont pas des marchandises. Ce sont des... Ils ont leur vie. Moi, je pense qu'il y a des livres... on a toujours un amour du dernier livre qu'on a publié, mais comme je m'oblige à toujours revenir en arrière, à chaque fois, je me dis « Ah, mais ça, c'était vraiment pas mal. » Voilà. Donc, je trouve que les livres de poésie, c'est une chose extraordinaire. Ce sont des livres qui vivent, qui ont une vie, je dirais pas éternelle, mais tant qu'on est là, on les porte. Je sais pas ce qui... Et alors, parallèlement à ça, le fait d'avoir le café-librairie, moi, ça m'a... Enfin, s'occuper d'une maison d'édition, moi, ça m'a appris à être réaliste et économiquement, ce qui n'était pas toujours évident. Maintenant, d'avoir une librairie, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on se rend compte à quel point un libraire, s'il est volontaire, s'il aime ce qu'il fait, il peut... Nous, on vend principalement de la poésie. On est une librairie principalement de poésie, d'éditeurs indépendants. Et moi, il m'est arrivé d'avoir un monsieur qui rentre, j'étais là, donc je m'en suis occupée, il voulait des romans policiers. Il est reparti avec 2 livres de poésie. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'essayez pas de la poésie pour une fois? Et je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que y a nous, mais il y a aussi le libraire. Et beaucoup de libraires font leur travail, mais ils ont besoin aussi qu'on leur explique à quel point la poésie est importante. Enfin,
La question délicate aussi du rapport avec les auteurs, en fait, il y a parmi les gens qui nous écoutent en ce moment, des gens qui ont probablement des manuscrits en attente. Vous fonctionnez de préférence avec des commandes. François Hesbourg en a un peu parlé déjà. Il a expliqué qu'il avait préféré la continuité, en fait, même s'il était sensible à la découverte de nouveaux auteurs. ou est-ce que, ou quelle est la part, je pose la question autrement, de manuscrits que vous recevez par la poste et que vous publiez? Autrement dit, voilà, est-ce que l'aléa est encore possible? Est-ce qu'on a encore des chances? Et je dirais, de manière très pratique, quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui éventuellement sont là, cherchent un éditeur et se disent, je vais peut-être aller voir à la fin François Hesbourg pour lui donner, Catherine Tournet pour lui donner, ou Jean-Yves Rezeau pour lui donner. François Favretto, vous lui donnerez rien. Voilà. Donc, quel conseil?
Ah, je leur conseillerais d'envoyer leur manuscrit à Ariane Le Fauconnier, qui est en train de filmer, au fond. non, mais je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Oui. Déjà, on n'a pas de conseil à donner, on est éditeur. Moi, je ne sollicite jamais un auteur, parce que c'est difficile après de, voilà, de refuser, par exemple, si on n'est pas convaincu. Les manuscrits, on en reçoit beaucoup, c'est entre 1000 et 1200 par an. Alors, on fait aussi beaucoup de littérature étrangère, je tiens à garder... on fait 40% à 50% de littérature étrangère. C'est important pour moi, c'est l'histoire de la maison. Et l'autre moitié, c'est la poésie francophone. Et on fait rentrer en moyenne un nouvel auteur francophone par an, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un jeune auteur, souvent un premier livre ou une jeune autrice. Cette année, on a même deux autrices qui publient leur premier et second livre chez nous. Donc, bêtement, c'est une chance sur mille. Mais ça ne veut rien dire, en fait, parce que si demain, j'avais 5 livres qui me bouleversaient, il y aurait 5 livres qui rentreraient dans la maison. Il n'y a vraiment aucune règle. On sait que c'est un métier. Ce qui est difficile dans ce métier, c'est que l'édition est un métier binaire. L'éditeur publie ou ne publie pas. Or, en tant que lecteur, il y a 1000 variations. Il y a 1000 livres que j'aimerais lire et que je lis ou que j'achète quand je les vois en librairie. Mais on ne peut dire que oui. Et on ne dit jamais non, d'ailleurs. Mais on ne peut dire que oui. Voilà.
Oui, Catherine, expérience comparable.
Oui, moi, c'est, alors moi, je publie...
Et avec aussi l'idée, est-ce que la collection est nécessaire, apporte quelque chose, ou est-ce qu'il vaut mieux garder la disparité?
Il y a une question, donc, par exemple, de format. Moi, j'ai des livres de poche. Automatiquement, c'est une collection à part, puisque c'est une collection qui existe depuis 3, 4, 5 ans, d'anthologie ou de... Mais en fait, c'est très intéressant. L'histoire de la collection de poche est intéressante, parce qu'au départ, je l'ai faite parce qu'il y avait des textes anciens que j'avais lus et dont les éditeurs avaient disparu. Et je me suis dit, c'est tellement dommage. C'était des textes anciens, des années 70 ou 80, je ne sais pas. En fait, ce format est devenu beaucoup plus souple. Maintenant, il y a des anthologies. Même maintenant, il y a des textes que je reçois et qui me semblent correspondre à ce format. Comme on n'est pas dans un métier... On essaye de vendre, c'est vraiment important que le livre rencontre le lecteur, mais on est quand même d'une souplesse, on ne fera jamais. Moi, je n'ai pas de contrainte de faire un best-seller, jamais, je ne le ferai jamais. Voilà, si je vends un livre, ce qui m'arrive à 1200, 1800, j'ai l'impression que j'ai fait le nirvana et puis ça va. C'est superbe. Moi, les manuscrits, moi je reçois aussi, mais comme c'est par internet, j'en reçois facilement 5000.
Comment fait-on d'ailleurs? Parce qu'on ne peut pas lire 5000 et même 1000. On ne peut pas les lire vraiment.
En fait, il y a. Alors, c'est en ça
qu'il
faut
problème,
être très,
François.
Il faut être très humble en fait. Parce que moi, c'est très souvent, je travaille, j'ouvre le manuscrit. Il y en a beaucoup, je me dis, bon, ça ne m'intéresse pas, mais je devrais répondre tout de suite. Je ne le fais pas parce que je me dis, la personne va se sentir, ça, c'est pas sympathique. Donc, du coup, tout ça s'en va. Il m'arrive de travailler, d'avoir un manuscrit qui arrive, de commencer à le lire, et de me dire, c'est vraiment, ça me touche. Puis je continue de travailler, puis après, les jours passent, et je n'arrive plus à le retrouver. Donc, c'est quand même assez... c'est pour ça que je pense que c'est... pas injuste, mais c'est quand même... Il y a un côté arbitraire, il y a un côté... Moi, j'ai le souvenir encore, quand je recevais encore des manuscrits en papier, en manuscrit, donc... de prendre le train, de faire Nantes-Paris, d'avoir un manuscrit, de me dire waouh, super, je le prends, je le publie, je pars du train, je laisse le manuscrit, je ne l'ai jamais retrouvé, j'y pense encore, Et j'avais, comme je ne regarde pas le nom des gens qui m'envoient, je lis, puis je... Eh bien, je me dis, c'est vraiment cette personne, j'espère que son livre a été publié quelque part, et j'en garde encore la douleur de cet acte manqué, ou je ne sais quoi. Voilà. Et puis moi, j'essaye de suivre mes auteurs, mais j'essaye de publier entre 5 et 6 livres nouveaux par an. Enfin, c'est à peu près le nombre qui se trouve, que je publie. Ouais, de nouveaux auteurs. Et ce qui est terrible, c'est que les nouveaux auteurs, après, deviennent des anciens auteurs. Ce qui fait que enfin, c'est magnifique, mais ça devient vraiment une maison immense avec des gens très différents. C'est la richesse de notre métier, je trouve. Mais par moments, j'ai un peu le vertige.
Jean-Yves, avant de vous donner la parole, moi, je voudrais faire deux toutes petites remarques sous forme de conseil. Je quitte un peu mon rôle de températeur pour un autre rôle. Le conseil qu'on peut tout de même donner, je pense que vous en serez d'accord, quand un écrivain, un poète cherche un éditeur, c'est d'abord de s'adresser aux éditeurs dont il lisent les livres. C'est pas la peine d'aller envoyer les choses à tort et à travers. Quand on lit les livres d'un éditeur, c'est qu'on aime l'éditeur et on a plus de chances que cet éditeur vous aime. Est-ce qu'on est d'accord sur ce premier conseil?
Oui, c'est le fondamental.
Parce que des fois, on reçoit des manuscrits, on se dit, mais ils n'ont jamais ouvert un livre qu'on a édité. Quoi,
voilà.
Parce que
quand ce sont des romans ou des essais, on se dit que vraiment, il y a un problème.
Et François, vous vouliez dire un petit mot là-dessus, non? Non.
C'est même pas un conseil, c'est naturel. Ceci dit, bon, moi je répète que c'est vraiment la partie presque du métier que je préfère, la lecture des manuscrits. Je le fais toujours dans les meilleures conditions. Je le fais le matin avec un de mes chats sur les genoux et un café. Dans les moments où je suis vraiment reposé, de très bonne humeur, parce que je tiens à garder toujours un esprit très ouvert et très bienveillant vis-à-vis des textes. Tu parlais de les lire. Tout le monde sait qu'un éditeur ne lit jamais, et t'imagines, encore nous c'est de la poésie, imagine pour les éditeurs de romans, on ne lit pas les manuscrits en entier, c'est pas la peine. Quand je lis un manuscrit en entier, c'est que je le publie.
Voilà.
Quand je le termine, c'est en général, c'est que je le publie. Voilà. Et sur le conseil, il est aussi amusant que l'inverse peut être vrai. C'est-à-dire que j'ai aussi reçu, et je reçois encore beaucoup de gens qui se font une idée de ce qu'en sont les éditions 1, qui en sont des grands lecteurs, et j'en suis heureux, et qui font une poésie qui ressemble tellement à ce que font les éditions.
Oui,
l'image que peuvent projeter que. Ben, j'ai l'impression que ça. Il y a un peu moins d'excitation de mon côté.
Oui, je comprends. Moi, la deuxième remarque que je voudrais faire, et Jean-Yves vous donne la parole, c'est que, je dirais, expérience partagée par d'autres, tout manuscrit qui mérite d'être publié finit par être publié. Je crois qu'il faut. Pardon ? C'est vrai, Jérôme Lindon le disait. J'ai dû le lire tout simplement sous la plume de Lindon. Mais c'est vrai encore, parce que si c'était Lindon, c'est il y a quelques années déjà. Donc ça reste vrai en 2025. Ça peut être plus ou moins long, ça peut être plus ou moins rapide, mais un manuscrit qui mérite d'être publié trouve toujours un éditeur, je crois. Voilà. Et peut-être un mot, il nous reste 5 minutes, je crois, donc il faut conclure. On ne peut pas ne pas parler quand même de la distribution et de la diffusion. C'est un vrai problème. Alors, moins un problème pour Segers, même si, et ensuite, donc Jean-Yves, pour commencer la réponse à cette question, et ensuite...
Moi, j'ai connu les deux versants radicalement différents, donc voilà. Une petite maison, le piège d'une relative petite maison, c'est d'avoir un gros diffuseur, justement,
oui.
Parce que là c'est le piège, parce que le diffuseur, il va toujours pousser à faire un tirage plus grand, lui, il s'en moque que le bouquin soit dans une librairie qui ne vend même pas de poésie, mais si le bouquin il y arrive, eux leur idée, c'est de mettre le plus de livres possible partout. Mm-hmm. Tandis que pour un éditeur, c'est pas du tout. Des fois, quand on voit la liste des offices, on se dit mais ils ont mis ça là, mais je sais qu'ils le vendront jamais là. Et donc après, ça fait des retours, et les retours, c'est le cauchemar des éditeurs. Et ça, c'est pas facile. Il faut essayer d'avoir un diffuseur qui correspond à son importance, au nombre de livres qu'on publie par an, etc. Mais c'est très difficile de trouver un bon diffuseur qui correspond
à ce que l'on veut faire. C'est pourtant un maillon de la chaîne qui est vraiment essentiel. C'est pas le plus visible, mais c'est un des plus importants. Ouais. Alors, Catherine, la libraire aussi, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Parce que, évidemment, la librairie, probablement le maillon le plus touché actuellement, et je pense que la librairie souffre indiscutablement.
Oui, en ce moment, c'est vraiment compliqué, mais je pense que Je pense que les éditeurs sur les salons s'en rendent compte aussi. Je pense qu'on est tous... voilà, c'est une période compliquée, d'inquiétude. Et voilà, nous, on vit parce qu'on est aussi un café, un lieu de rencontre, de lecture, et puis on commence à être vraiment identifié comme un lieu, parce que même pour les romans, on s'attache à avoir des éditeurs indépendants, c'est-à-dire essayer de trouver des éditeurs dont on apprécie le travail, qu'on respecte, et très souvent, ben, c'est pareil, on les suit, ils nous suivent. Voilà, c'est un travail passionnant, parfois ingrat, parce que il y a des textes magnifiques et on n'arrive pas à, on est très convaincus, on n'arrive pas à les faire passer. Mais je pense que en tant qu'éditeur et éditrice plutôt, j'ai mon regard sur mon travail a changé depuis que je suis aussi libraire. Non pas, je pense qu'il faut arriver à avoir vraiment à faire passer un message. Et un message, parce qu'on parlait, au départ, vous avez commencé à en dire, oui, la poésie est de plus en plus à la mode, ou je ne sais pas, ou commence à se vendre mieux. Je pense que oui, mais je pense qu'il faut, quand on est libraire et on a peu le temps, il faut accepter de aussi de découvrir, laisser les... Nous, on fonctionne beaucoup par dépôt, donc les gens viennent... Et ça permet de découvrir des choses vraiment qui ne sont même pas distribuées, même pas diffusées. Et parfois, il y a des perles. Et parce qu'il y a vraiment une richesse d'éditeurs qui font un magnifique travail, qui n'ont pas pris les circuits habituels et qui ne sont pas reconnus comme, voilà, comme les éditions Lune ou le Castor Astral. Mais qu'il faut accepter de les accueillir pour voir leur travail qui est vraiment intéressant.
Et le mot de la fin est donc de l'ouverture pour François Heusbourg, des éditions Une au pluriel avec un S.
Oui, la diffusion, en fait la diffusion, c'est une question d'adéquation. Par exemple, nous on est diffusé par Les Belles Lettres, qui est un diffuseur taillé sur mesure pour un éditeur comme moi. C'est-à-dire que c'est une équipe extrêmement compétente qui a fidélisé plusieurs centaines de librairies en France et qui travaille très bien. Au fond, la question des petits et des grands, comme le disait Jean-Yves, avoir un grand diffuseur quand on est une maison d'édition indépendante, ça ne sert à rien. De toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une grande maison d'édition de poésie? Pas grand-chose. Et paradoxalement, je pense aux éditions Une, mais je pense aussi aux éditions du Castor Astral, à Bruno Doucet, à Chêne. On publie 15-20 livres par an à des tirages deux fois supérieurs à ce que, alors que Gallimard ou Flammarion, par exemple, qui sont des immenses éditeurs et qui appartiennent d'ailleurs au même groupe, publient entre 5 et 10 livres par an en poésie à des tirages deux à trois fois moins. Donc, en fait, il vaut mieux avoir une diffusion très ajustée à ce qu'on fait. Et un dernier mot, on parle des libraires, on parlait du soutien institutionnel. En fait, tout ça, c'est une chaîne. Et ce qui a fait la particularité de l'édition en France, c'est la chaîne. C'est-à-dire qu'on est d'abord sauvé, et c'est pour ça qu'on existera encore dans 10 000 ans, par le prix unique du livre, qui est une politique de protection, protectionniste, et qui a fonctionné. C'est grâce à ça que dans ce pays, il y a encore autant de libraires. Et c'est grâce à ça que ces libraires sont aussi curieux, peuvent à ce point défendre des catalogues comme les nôtres. Ça, c'est extrêmement important. On parlait du CNL. Le CNL est indispensable. Les aides du CNL sont indispensables à nos économies. Et en plus... Il faut d'autant les remercier que tu disais que parfois les aides publiques sont fragilisées, mais le livre, enfin, c'est le meilleur coup de l'État français. Le CNL donne à peu près 5 millions d'euros par an aux éditeurs pour publier des livres. 5 millions d'euros. Avec ça, l'édition française fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Pardon pour les chiffres. Le cinéma, c'est 1 milliard. Le livre, c'est 3. Et on a 5 millions d'aides. C'est extraordinaire. Le cinéma, ça n'a rien à voir. Donc, Non, le livre, c'est le meilleur coup de l'État français, c'est le meilleur investissement de l'État français. Merci au CNL, merci aux institutions. S'il y avait encore le double, imaginez ce qu'on ferait, ce serait merveilleux. Et on doit tout ça, toute cette créativité, cette effervescence éditoriale en France, ce nombre de maisons d'édition indépendantes, tient grâce à tous les maillons de la chaîne, les diffuseurs-distributeurs, les marchés, les festivals, qui sont tous soutenus par les, par, comment dire, par les collectivités, les maisons de la poésie, les librairies indépendantes. C'est un maillon, et s'il y a un de ces maillons qui se rompt, on ne sera pas grand-chose. Et on a cette chance-là de faire ce métier quand même dans des conditions assez uniques.
Très belle réponse. Pour finir par question et réponse, en une seconde, votre coup de cœur actuel, qu'on finisse aussi avec les mots, les titres et les noms. Voilà, Joker du côté de Jean-Yves Rezeau, Joker du côté de... Oui. Non, mais je sais que c'était une question, voilà. Et question piège, donc Catherine Joker et François. Tout simplement...
Oui, non, lisez Solmaz Sharif, bien sûr.
Voilà, tout simplement. Merci infiniment. On laisse la place maintenant à l'eau qui va couler à flot et à Vincent Gimeneau. Merci infiniment, bon après-midi.
Merci Didier, merci pour cette rencontre. Dans quelques instants, le temps de remettre un petit peu d'ordre, le temps de laisser les gens aller s'abreuver, nous recevrons, pour une parole d'éditeur, nous recevrons les éditions Almanach. Il sera présent en compagnie de Mohamed Kassimi.